Allez, la suite avec nos invités. Nos invités sont là, présents dans ce studio. Il s'agit du collectif citoyen de défense des urgences et de l'accès aux soins du bassin manosquin, c'est-à-dire le CCDUAS. Eliane Mévouillon, bonjour.
Bonjour.
Et Michel Hardison, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes deux membres actifs de ce collectif.
Oui.
Alors, première question, quel est le but de ce collectif ?
Le collectif a pour but de lancer l'alerte, en fait, sur une situation que nous estimons très grave de non-assistance aux personnes en danger, on dit le mot, et sachant que... La sécurité des populations doit être assurée. Il nous est apparu essentiel de dire que les urgences doivent fonctionner à temps complet.
Alors vous agissez sur le bassin manosquin.
Exactement.
Comment s'est constitué ce collectif ?
Le collectif s'est constitué à la suite d'une réunion. Nous étions quelques citoyens. Et à la suite de cette réunion, nous avons dit qu'il faut agir vite et avec le maximum d'efficacité pour alerter sous toutes les formes. Donc, l'action, je vais venir sur l'action du coup, c'est de choisir des moyens audio, des moyens écrits, tous les moyens. Et nous avons ouvert un réseau par Facebook et nous avons eu en 2 jours 200 personnes inscrites dans le groupe.
Et au total, il y a combien de personnes qui soutiennent ce collectif ?
Sur le groupe Facebook, nous sommes 624, plus une quarantaine de personnes qui ne sont pas inscrites à Facebook. Voilà, donc on est 670 à l'heure actuelle.
Lorsque vous parlez de vos moyens d'action, ce sont des moyens d'information, des moyens où vous expliquez ce qui se passe comme problème ?
Oui, alors les moyens d'action sont limités malheureusement parce que nous avons choisi de ne pas être association et nous n'avons aucune subvention.
Oui, je rappelle que vous êtes un collectif citoyen.
On est un collectif citoyen, donc effectivement, nous sommes des bénévoles sans argent. Alors les moyens d'action, on a fait au début une information par tract, qu'il faudrait d'ailleurs renouveler pour annoncer la prochaine action.
Des rassemblements ?
Des rassemblements, nous avons participé à un grand rassemblement avec les organisations syndicales et politiques le 7 juin. Et nous avons en prévision un rassemblement le 26 août. L'intention est de, comme je l'ai dit, de donner l'information, de faire des alertes. Bon, nous avons adressé une motion à tous les maires, il y en a 63, du bassin manosquin. Cette motion consiste à faire la démonstration qu'il y a un code de la santé qui dit qu'il faut que les usagers, les populations soient prises en charge à temps complet sitôt qu'il y a un hôpital. Or, ce n'est pas le cas, du coup. Dans les engagements de l'ARS, il apparaît que les usagers ne devraient pas être à plus de 30 minutes de l'hôpital le plus proche, ce qui n'est pas le cas non plus, du coup. Donc, voilà, on essaye de montrer donc, aux élus et à tout ce qui nous écoute, et la presse, entre autres, toutes les presses, que nous sommes en deçà de la normalité par rapport à la législation.
Dedans, vous incluez évidemment, je suppose, le personnel soignant qui lui aussi subit du coup les retombées de ce qui se passe à l'hôpital actuellement.
Oui.
Vous pouvez m'en parler un petit peu?
Oui. Alors les personnels soignants, effectivement, subissent la crise. Déjà après cette grosse crise du Covid, là, c'est quelque chose de difficile à gérer pour eux, parce que ça n'est pas du tout dans leur optique de fonctionner comme ça. Et ils ont des revendications salariales, il y a des revendications au niveau des moyens, ça nous le savons, mais par contre, nous avons fait le choix, pas de les oublier, hein, puisqu'on sait très bien cette réalité, nous avons fait le choix de nous orienter sur l'axe service aux personnes. Voilà. Et on va en même temps s'occuper de la question des personnels suspendus, que ce soit les personnels soignants, les médecins, les pompiers, qu'il ne faut pas oublier, parce que les pompiers s'occupent aussi des malades qu'ils vont chercher à domicile, qui vont prendre en charge sur les routes lorsqu'il y a des accidents. Donc ça fait partie effectivement du soin aux personnes et de la sécurité des personnes. Donc là, ils ont été suspendus. Et bien que le Covid, apparemment, maintenant n'existe plus, qu'on supprime plus ou
ça,
moins...
Ça, c'est vous qui le dites.
Oui, mais enfin, plus autant que ce qu'il y avait. Bon, n'importe comment, il y a toujours des maladies, il y a toujours des virus. On ne va pas l'arrêter comme ça, c'est bien entendu. On n'est pas là pour nier la réalité. On est juste en train de demander justement que le maximum de personnel soignant soit là pour justement pallier aux besoins. Voilà. Si justement on parle de Covid, s'il revient une crise, il faut qu'on ait le maximum de personnes en service.
Bon, par exemple, à l'hôpital de Manosque, actuellement, est-ce qu'il y a le nombre de médecins suffisant?
Alors, le nombre de médecins idéal pour Manosque serait 17. À l'heure actuelle, il en manque 9. Alors, une grande question pour nous de savoir ce que sont devenus ces 9 médecins. Pourquoi il manque subitement 9 médecins? Est-ce qu'on est passé de 17 à 6, donc, comme ça, subitement? Est-ce que c'est à cause du Covid? Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui sont cachées qu'on ne connaît pas forcément? Des départs à la retraite, peut-être? Parce que, bon, on a vu le maire de Manosque. On a vu deux fois des adjointes, et une fois lui, il nous assure que c'est pas un problème financier, que les postes existent. Donc si les postes existent, pourquoi les gens ne sont pas là? Disons qu'on n'est pas en mesure, nous, de répondre à cette question. Et on a l'impression qu'il y a des dessous qu'on ne nous dit pas. Mmh.
Donc on va reparler de votre prochain moyen d'action.
Oui.
Vous pouvez nous rappeler la date?
La date, c'est le 24, on va faire une action de sensibilisation avec des panneaux d'information le long de la route, mmh, auprès des commerçants, pour amener à l'action du 26, qui sera un regroupement devant les urgences.
À Manosque.
À Manosque. On aimerait vraiment refaire ce qui s'est fait pour Sisteron, un rassemblement hebdomadaire, mais on ne sent pas une volonté très marquée. Et le rassemblement hebdomadaire, pour nous, pourrait se faire en ville, pourquoi pas aussi, parce que les urgences sont excentrées.
En fait, à travers vos propos, j'entends que vous parlez d'une désorganisation, en tout cas, qui ne va pas en faveur des patients.
C'est ça, c'est exactement. Une désorganisation qui nous inquiète parce qu'on est passé d'une fermeture qui intervenait pas toutes les nuits à une fermeture subitement la journée. Et puis là, c'est toutes les nuits. Alors on s'inquiète d'arriver à une fermeture générale, quoi, des urgences.
Parce que là, actuellement, toutes les nuits,
toutes les nuits, pendant l'été, toutes les nuits. Alors, c'est annoncé par petite dose, 15 jours après 15 jours. Parce qu'on suppose que le directeur de l'hôpital ne veut pas affoler le monde. Mais on sait très bien que ça va nous mener à la fin de l'été, quoi, ça.
Et du coup, s'il y arrive quelque chose la nuit, donc, il peut y avoir des dommages vitaux, quoi. Enfin, dommages graves.
On a eu connaissance de cas effectivement graves. Le camarade qui est là va pouvoir l'expliquer, hein, puisque lui a vécu ça directement. On demande aux gens de faire des témoignages pour nous dire comment ils vivent justement la situation. On sait qu'à partir de 16h30, ça n'est pas dit, mais on nous annonce la fermeture des urgences à 18h30, mais des pompiers qu'on a vus nous ont dit, et des ambulanciers nous ont dit, nous, à partir de 16h30, on nous demande de ne plus envoyer personne à l'hôpital de Manosque. Ils sont déjà à 16h30, ils sont basculés à l'hôpital qui est ouvert. Alors, autrefois, c'était Pertuis jusqu'à présent, mais Pertuis, maintenant, ferme toutes les nuits, donc c'est Aix. C'est toujours un peu plus loin. Et donc, on arrive à ce dépassement du temps horaire que j'expliquais, déjà à partir de Manosque.
Et est-ce que l'hôpital de Pertuis a les mêmes moyens, dispose de moyens suffisants pour pouvoir prendre en charge certaines pathologies?
Je sais qu'ils sont en difficulté, puisqu'on a eu l'occasion de rencontrer des suspendus, des personnels suspendus de l'hôpital, qui se tiennent quand même au courant du fonctionnement. Et le fonctionnement à Pertuis, forcément, souffre de ce nombre de personnes supplémentaires à prendre, alors qu'ils ne sont pas prévus pour ça, quoi.
Eliane Mévouillon, membre actif du collectif citoyen de défense des urgences et de l'accès aux soins du bassin manosquin, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à tout ce que vous venez de nous dire?
Ah oui, il y a beaucoup de choses, surtout des questions. Surtout des questions et une suite à donner de façon à ce qu'on soit entendu. Qu'on soit entendu à tous les niveaux. Je pense que du côté
au
des maires...
Au niveau des institutions, vous voulez dire?
Au niveau des institutions, oui, l'ARS, entre autres. L'ARS, le ministre, puisque le ministre, lui, il dit que non, il n'y a pas de fermeture, il y a des réaménagements, il passe carrément à côté, quoi. Alors là, nous, ça ne nous plaît pas d'entendre ça, parce que c'est de la langue de bois, pure et simple. Et il veut noyer le poisson. Et nous, on n'a pas l'intention de noyer le poisson parce que c'est trop grave. On a l'impression de reculer, très honnêtement, puisqu'on parle là des urgences, mais vous savez qu'on s'occupe aussi de l'accès aux soins. Il y a des années en arrière, il y avait à Manosque, il y avait ce qu'on appelait SOS médecins. C'est-à-dire que les week-ends ou la nuit, où vous étiez en capacité d'appeler une personne qui répondait, et voilà, il y avait un suivi. À l'heure actuelle, il n'y a plus de médecins de ville. Donc, les gens...
Enfin, si, des médecins de ville, il y en a, mais...
Pas suffisamment.
D'accord.
Pas suffisamment, en rapport de la demande. Ce qui fait que les gens se retournent vers l'hôpital, effectivement, la nuit. Les médecins, moi, le mien, hein, je peux parler du mien, hein, ouvertement, il est à mi-temps maintenant, il devrait être à la retraite depuis 7 ans. Parce qu'il ne trouve personne, donc il continue à fonctionner. Mais il travaille à mi-temps, il a envie effectivement de vivre lui aussi. Hein. Et donc, à partir d'une certaine heure, et les week-ends, il nous envoie au 15. Le 15, on sait ce que c'est, ce qu'on vient d'écrire. Hein. Le SAMU, et voilà, le SAMU va nous envoyer vers les hôpitaux qui prennent le relais.
Je pense que vous nous avez tout bien expliqué.
Oui, ben je pense, j'espère.
Et maintenant, on va faire une toute petite pause musicale. Et puis, on va retrouver le témoignage de Michel Hardizon, qui est membre actif aussi, et qui va nous raconter son témoignage en tant que patient.
Voilà.
Allez, on fait une petite pause.
Merci.
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 après les explications d'Éliane Mévouillon, qui est membre active du collectif citoyen de défense des urgences et de l'accès aux soins du bassin manosquin, il y a aussi Michel Hardizon qui est là, qui est membre actif aussi du collectif, mais qui va témoigner lui justement de son expérience en tant que patient. Michel Hardizon, pouvez nous donner votre témoignage par rapport à quelque chose qui vous est arrivé d'un point de vue médical?
Alors, vers la fin juin, j'ai eu un malaise cardiaque. Et en fait, j'ai eu des douleurs intensives qui m'ont duré une semaine. Donc c'était une douleur. C'était une douleur au niveau thoracique, une douleur derrière le dos et sur le bras gauche. Et cette douleur était devenue tellement insupportable que je suis allé aux urgences. C'était...
Dans la journée.
Dans la journée. Et les urgences m'ont pris. Et ils n'ont rien trouvé. Donc ils m'ont laissé ressortir. Et puis le lendemain, j'ai fait deux malaises. Donc j'étais en voiture, je suis allé faire 4 courses. En sortant du magasin, je me suis, on va dire, effondré. J'ai repris, on va dire, des forces. Je suis remonté dans la voiture. Je suis parti pour rentrer chez moi au plus vite. Et avant de rentrer chez moi, eh ben, j'ai fait un nouveau malaise. Donc je suis descendu de la voiture. Je me suis effondré, j'ai vomi. Et heureusement qu'il y avait une personne à côté qui m'a vu, qui a appelé le SAMU. Le SAMU est venu et m'a emmené d'urgence aux urgences.
Aux urgences de Manosque.
De Manosque. Ils m'ont fait donc toutes les analyses qu'il fallait. Et ils n'ont rien trouvé non plus. Mais ils ont eu la présence d'esprit de me garder en observation pendant la nuit. Et c'est le lendemain matin qu'ils m'ont dit que j'allais faire un infarctus. Voilà. Donc,
Que vous aviez fait ou que vous alliez
faire? J'allais le faire. Donc, ils m'ont envoyé d'urgence à l'hôpital de Aix-en-Provence. J'ai été opéré à Aix. Donc, on m'a mis deux stents. Et puis voilà, je suis sorti, 2 jours après. Mais une semaine après, j'ai fait un autre malaise. Et là, ça s'est passé pendant la nuit. Et du coup, le SAMU de Manosque est venu. J'ai appelé ma voisine parce que... ma voisine est venue, elle a appelé le SAMU. Le SAMU est venu.
SAMU de Manosque.
De Manosque. Mais ils ont appelé aussi le SAMU de Pertuis pour venir me chercher.
Et pourquoi ?
Je n'en sais rien, je ne peux pas vous dire. Je sais qu'eux, ils sont venus, ils m'ont lâché à l'entrée de l'autoroute en 51. Et c'est le SAMU de Pertuis qui ont pris le relais.
C'est parce que c'est le changement de département.
Voilà, certainement c'est dû à ça, au changement de département. Quoi. Mmh. Et donc, quand je suis arrivé à Pertuis, le docteur me l'a dit ouvertement que pour le problème que j'avais, ils n'avaient pas le matériel pour moi. Voilà, ils n'étaient pas équipés. N'ayant rien trouvé d'inquiétant, parce qu'elle m'a dit, pour le moment je ne trouve rien, mais ça ne veut pas dire que d'ici une heure, vous ne faites pas une crise cardiaque. Ils m'ont laissé ressortir et ils m'ont dit si vous voulez, vous pouvez rentrer aux urgences de Manosque dans l'après-midi. Quoi. Voilà. En fait, je tiens à. Comment dire dans mon témoignage, ça s'est passé dans la journée. Mon problème s'est passé dans la journée. Mais j'imagine si j'avais eu ce problème. Le soir, après 18h, comment ça se serait passé pour moi.
Parce que justement, c'est fermé les urgences.
Voilà, parce que c'est fermé les urgences. Et quand on est dans un état comme ça, quand on fait un infarctus, on est dans l'incapacité d'appeler qui que ce soit. Et moi, je vis seul, je suis une personne seule, célibataire, seule, je suis isolé. Et je pense que je n'aurais pas pu appeler le 15. Et peut-être que je serais décédé à l'heure actuelle.
C'est ce qui a motivé de rejoindre le collectif citoyen de défense des urgences.
Voilà, c'est ce qui m'a motivé parce que les urgences, de toute façon, bon, les urgences, au cours de ma vie, j'ai eu affaire aux urgences plusieurs fois. Ce n'est pas la première fois que je vais aux urgences. J'ai eu d'autres problèmes. Un jour, j'ai fait une insolation. S'il n'y avait pas eu les urgences, j'étais mort. Mmh. Donc les urgences, pour moi, je trouve que c'est capital. Voilà. C'est quelque chose de vital. Ça concerne notre santé, à tous. Nous sommes tous concernés. Et les enfants aussi sont concernés. Donc de fermer les urgences pendant la nuit, j'estime que c'est une atteinte, effectivement, à la santé publique.
Et c'est ce que votre collectif essaye de défendre avec ferveur.
Voilà. Déjà, nous l'avons fait pour Sisteron. Pendant un an, nous avons manifesté tous les lundis pour que les urgences de Sisteron ouvrent. Et on voudrait que ça soit exactement la même chose pour Manosque.
Et donc, évidemment, les moyens d'action que vous allez entreprendre, on l'a bien précisé tout à l'heure, vous allez faire de l'information à partir du 24 août un événement qui aura le 26 août, un rassemblement devant les urgences de Manosque.
Voilà. Je crois que j'ai oublié de parler des pétitions.
Ah oui.
On a une pétition qui circule. À l'heure actuelle, on est à 5500 signatures. Qui est faite en ligne, donc, et l'autre manuscrite, tous les samedis matins, on se trouve devant la mairie. Alors là, je vais raconter une anecdote qui est... Bon, j'ai remercié ce matin le premier adjoint au maire. La semaine dernière, j'ai oublié la banderole devant la mairie, alors que normalement, c'est interdit, paraît-il, de mettre des banderoles comme ça devant les lieux publics. Je l'ai oubliée, mais elle est restée. Alors du coup, on a dit, bon, on la laisse. Donc elle y est, là encore, tous les gens la voient. Et pour nous, c'est important, effectivement, parce que c'est une marque. Elle ne dit pas grand-chose, elle dit simplement, réanimons les urgences, réouvrons l'hôpital public 24 heures sur 24, 7, heures par jour, 7 jours sur 7. Pardon.
Et on va dire que c'est le mot de la fin, puisque après ce témoignage et vos différentes explications, on a bien compris exactement quel était le but de votre collectif. Je vous remercie infiniment, Eliane Mévouillon, d'être venue vous exprimer sur les ondes de Fréquence Mistral, et puis Michel Hardizon aussi, qui, à travers son témoignage, a montré un petit peu la complexité, que ce soit pour les patients, mais aussi pour les soignants.
Ça.
Parce qu'il ne faut pas les oublier non plus.
Merci à Fréquence Mistral, parce que c'est important, comme on le disait, d'être entendu à tous les niveaux. Et la presse, pour nous, est très importante.
Voilà, vous pourrez retrouver ce reportage sur le site de fréquencemistral.com et il sera rediffusé comme d'habitude. Allez, la suite du programme, on va continuer avec Daniel Mille tranquillement, et puis ensuite la suite du programme, ce sera une playlist musicale. Au revoir et merci.